Merci d'affronter la chaleur. Merci surtout d'avoir décidé de sacrifier la conférence sur les zombies pour m'écouter parler. Parce que là, je suis conscient du fait que le dilemme a été cruel. Je vais juste mettre une petite rectification. J'ai été rôliste avant d'être prof de lettres. Chronologiquement parlant. Hein. Alors, c'est vrai que ces deux caractéristiques chez moi ont très fortement influencé les fictions sur le vieux royaume que j'ai commises. Et en fait, je ne vais pas faire ce que vous attendez de moi, c'est-à-dire que je ne vais pas bêtement vous lire de façon très narcissique des extraits de ce que j'ai commis. Je comptais plutôt vous parler de ce qui m'a inspiré, que ce soit au niveau ludique ou au niveau littéraire, puisque ça correspond aux deux influences hein, qui ont vraiment conditionné la création du Vieux Royaume. Alors, tout d'abord, je suis rôliste, oui, et le Vieux Royaume, qui est au centre de Janua Vera et de Gagner la guerre, le Vieux Royaume a été à l'origine un univers de jeux de rôle. Un univers qui avait été conçu. J'attends que les rôlistes là aient fini leur cirque. Ah, là, ils font du GL. Hein. Donc. Il y avait deux raisons à l'origine de la création du Vieux Royaume. Il y a une prise d'otage là. Donc, non, mais ils sont en train de partir, c'est bien. C'est bien. Ah oui. Donc, deux raisons. D'une part, je jouais pas mal de jeux et pas beaucoup à Donjons et Dragons. Mais j'étais assez énervé par. Un marronnier qui revenait assez souvent sur des forums de rôlistes, il y avait certains rôlistes qui disaient avec Donjons et Dragons, on ne peut rien faire de sérieux. On ne peut faire que du porte-monstre trésor. Et je me disais, mais après tout, le porte-monstre trésor, c'est pas mal, d'une part, et d'autre part, Donjons et Dragons, on peut en faire ce qu'on en veut. Alors plutôt que de partir dans une polémique stérile et de devenir un troll sur des forums, je me suis dit, je vais faire la démonstration qu'avec du Donjons et Dragons, on peut faire pas mal de choses. Et ça a été à l'origine du Vieux Royaume. Alors j'ai apporté ici les choses qui parleront aux rôlistes, mes documents de jeu, mes scénarios du Vieux Royaume. Bon, de loin, bien sûr, vous verrez rien, hein, mais il y a bien des donjons, hein, avec des escaliers, des salles. Bien sûr, pas forcément dans l'ordre, hein. Des cartes, hein, donc carte de lieu. Il y a même la carte de Bourg-Preux, qui est une des villes qui est présente dans Janua Vera, hein. Bon, etc. Donc là, j'ai la preuve de ce que j'avance, c'est-à-dire qu'à l'origine, je n'avais pas écrit de la littérature, mais j'avais fait du jeu de rôle. Donc j'ai fait jouer un certain nombre de victimes dans cet univers. Et puis, j'ai un de mes amis qui m'avait demandé des scénarios parce qu'il était expatrié à Singapour, à qui j'avais envoyé ces scénarios, et qui m'a dit qu'il les avait fait jouer, que ses joueurs avaient apprécié, mais qui m'a dit, dans tes scénarios, il y a matière à plus que simplement du jeu de rôle. Alors ça a été le premier point. Il faut savoir que cette origine ludique m'a joué des tours ensuite quand j'ai adapté cet univers au niveau romanesque. Par exemple, la République de Ciudadela, qui est la cité au cœur de ce pavé, elle était un lieu périphérique dans mon univers de base. J'avais besoin d'une cité bien corrompue, avec une influence économique lourde et de multiples intrigues politiques et dynastiques pour ensuite disséminer un peu partout dans le reste de l'univers de jeu des matières à intrigues. Et par conséquent, je l'avais traité un peu au-dessus de la jambe, la République de Ciudadela, et j'étais parti du principe que tous les noms des personnages ciudadeliens reposeraient sur de mauvais calembours. Donc j'avais créé, par exemple, hein, il est présent dans le roman, hein, un assassin qui s'appelait Rosso Dagarella, Donc, il était visible comme le nez au milieu de la figure que c'était un sale type. Tous les quelques noms de familles patriciens, de familles patriciennes que j'avais créées s'appelaient Sicarini, donc, de Sicaire, Sanguinella, qu'on voyait assez bien, etc. Quand j'ai repris cet univers de façon romanesque, ces personnages que j'avais créés initialement pour le jeu, ils étaient au centre de l'univers, je ne pouvais pas les en retirer. Est-ce qu'il fallait les renommer ? Je me suis dit non quand même, je ne vais pas tout renommer. Mais par contre, je ne pouvais pas donner des noms franchement sérieux aux autres personnages. Or, dans ce roman-là, il y a des centaines de personnages. Donc, j'ai dû créer toute l'onomastique, c'est-à-dire tous les noms propres de Ciudadela, en me conformant à cette idée que ça devait systématiquement avoir un sens et qu'il devait toujours y avoir une trace d'humour ou d'humour noir. Donc, même les noms qui semblent être des noms a priori anodins, comme par exemple la famille Mastigia, comme la famille Cladestini, ces personnages ou ces familles ont des noms qui ont sens. Mastigia, avec deux G, c'est la déformation du latin mastigia, massacre. Or, ce personnage, Bucéphale Mastigia, se fait massacrer très vite dans le roman. La famille Cladestini a son nom qui est formé sur le latin clades, désastre. Or, les Cladestini est une grande famille de magistrats qui vont connaître la défaite et la mort au début du roman. Alors là, je prends deux exemples, il y en a énormément. Hein. Il faut savoir que quasiment tous les noms ciudadeliens dans le roman portent la tare, le péché originel du jeu de rôle, c'est-à-dire qu'ils ont été forgés selon ce principe. Il faut qu'il y ait un sens, et souvent un sens d'humour noir derrière eux. Voilà donc pour un petit peu l'origine ludique. Il y a le deuxième volet, je suis malheureusement aussi prof de lettres. Et par conséquent, dans ce que j'écris, j'ai été influencé par certains auteurs. Alors, plutôt que de vous lire ce que j'ai écrit, encore que je vous en lirai aussi un petit peu, pas beaucoup, j'ai préféré vous donner lecture de quelques extraits d'auteurs qui m'ont marqué. Alors, il y a plusieurs catégories d'auteurs qui m'ont marqué. Il y a d'une part ceux que j'ai tendance à appeler des peintres, des auteurs qui ont une force de description assez extraordinaire et qui, d'une façon ou d'une autre, m'ont marqué. Dans la mesure où, même si j'essaye de me soigner, j'ai une tendance au lyrisme et à la description dans ce que j'écris. Alors, un premier exemple que j'aimerais vous lire, assez bref, une petite page, c'est un extrait de Giono, parce que Giono a parfois des pages d'une fulgurance extraordinaire. En ce qui concerne Janua Vera, mon recueil de nouvelles, il y a au moins une nouvelle où j'ai été profondément influencé par Giono parce que j'étais en train d'étudier en classe Un roi sans divertissement quand je l'ai écrite. Je vous en donne lecture. C'est au début du Hussard sur le toit. Le personnage principal, Angelo, s'apprête à pénétrer dans une zone qui est envahie par le choléra. Il ne le sait pas encore. Et Giono dépeint la campagne écrasé par le soleil que traverse Angelo avant d'être confronté au fléau. Il était à peu près 1 heure de l'après-midi et la chaleur était amère comme du phosphore. « Ne passez pas au soleil, » dit l'homme, ce qui était à son avis d'une ironie profonde, car il n'y avait d'ombre nulle part. Il sembla à Angelo qu'au pas de son cheval, il entrait dans le four dont il parlait tout à l'heure. La vallée qu'il suivait était très étroite, encombrée de boqueteaux de chênes nains. Les parois pierreuses qui dévalaient vers elle brûlaient à blanc. La lumière écrasée en fine poussière irritante frottait son papier de verre sur Angelo et le cheval somnolent. Sur les petits arbres qu'elle faisait disparaître peu à peu dans de l'air usé dont la trame grossière tremblait, mélangeant des taches d'un blond graisseux à des ocres ternes, à des grands pans de craie où il était impossible de reconnaître quoi que ce soit d'habituel. Le long de hauts rochers anfractueux, coulait l'odeur des nids pourris abandonnés par les éperviers. Les pentes déversaient dans le vallon l'odeur fade de tout ce qui était mort loin à la ronde dans les collines blêmes. Souches et peaux, nids de fourmis, petites cages thoraciques grosses comme le poing, squelettes de serpents en fragments de chaînes d'argent, étendards de mouches abattues comme des poignées de raisins de Corinthe, hérissons morts dont les os étaient comme le lait des châtaignes dans leurs bogues, lambeaux hargneux de sangliers répandus sur de larges aires d'agonie, arbres dévorés des pieds à la tête, bourrés de sciures jusqu'à la pointe des rameaux, que l'air épais tenait debout, carcasses de buses effondrées dans les branches de chêne sur qui le soleil frappait, ou l'odeur aigre des sèves que la chaleur faisait éclater dans des fentes le long des troncs des alisiers sauvages. Toute cette barbarie n'était pas seulement dans le sommeil rouge d'Angelo. Il n'y avait jamais eu un été semblable dans les collines. Alors là, je trouve une force d'évocation dans la peinture qui prépare le fléau qui frappe ensuite le pays. Et ce sont des pages qui me marquent profondément et que je rêverais de pouvoir reproduire d'une façon ou d'une autre. Alors un autre peintre, un autre auteur qui m'a pas mal marqué, c'est Julien Gracq. Il m'a marqué pour différentes raisons. En particulier parce que c'est un auteur qui, à mon avis, a été sur le seuil d'écrire de la fantaisie et qui n'a pas été jusqu'au bout. Pour rappeler, un Gracq, il s'est éteint il y a quelques mois. C'est un auteur qui est né au début du XXe siècle, qui a une culture qui est complètement française et classique. C'est un ancien normalien, c'est un agrégé de géographie, il a fait des sciences politiques. Mais il se fait connaître dans les années 1950 avec un roman très étrange, Le rivage des Sirtes, qui est un roman, en fait, où il met en scène une espèce de république italienne qui aurait survécu indépendante jusqu'au début du XXe siècle, la ville d'Orsena, et qui va se heurter à la limite de ses frontières, hein, sur le rivage des Sirtes, hein, qui va se heurter à une société étrangère qui ressemble fortement à une société orientale. Ce roman a eu un succès extraordinaire, au point que Gracq a senti qu'il avait touché à quelque chose d'important. Gracq a obtenu le prix Goncourt qu'il a refusé, mais il y a eu une très forte attente d'une suite, de quelque chose qui serait dans la même veine que Le rivage des Sirtes. Et il a travaillé pendant des années sur un autre roman qui n'a pas réussi à terminer. Il n'en a gardé qu'un fragment, qui est La route, une nouvelle qu'il a publiée assez tard, dans les années 70. Alors, cette nouvelle, je l'ai lue il y a 15 ans, 15-20 ans, et j'ai été ébloui. Il n'y a pas vraiment de récit, puisque c'était le fragment d'un roman. On y suit simplement un groupe de voyageurs qui suit une route abandonnée depuis un lieu que le narrateur appelle le royaume jusqu'à des terres qui sont rentrées dans la barbarie. Je vais vous lire le passage, et puis ensuite, je vous dirai quel auteur Gracq a découvert après avoir écrit La route. Donc, ici, le narrateur fait partie d'un groupe de voyageurs, ce sont des cavaliers. Et encore faut-il que je retrouve le passage, voilà. Pour parenthèse, hein, Gracq m'a beaucoup influencé dans l'esprit du vieux royaume. La prise de l'homme sur ce glacis entre les terres pacifiées du royaume et les contrées barbares s'était visiblement desserrée, à mesure que les vagues d'invasion devenaient plus fréquentes. Les signes de l'incendie, du pillage et de la mort violente n'y manquaient pas. Çà et là, des abatis tout récents coupaient la route, pointaient la termitière noire d'une meule brûlée, ou bien, au milieu du rectangle vide d'un défrichement déjà repris par les chardons et les orties, on voyait se dresser la carcasse d'une ferme incendiée. Mais ces rencontres gardaient plutôt le caractère d'accidents isolés, auxquels l'œil ne se résignait pas d'avance, comme lorsqu'on s'est mis en tête, une fois pour toutes, qu'on traverse un pays dévasté par la guerre. Ces décombres charbonneux s'isolait toujours vivement et sinistrement du paysage intact, comme un troupeau ou une grange calcinée par la foudre au milieu de la verdure de juin. Plutôt qu'une campagne saccagée par l'invasion, on aurait cru parfois traverser une contrée aux étés anormalement orageux. Non, ce qui engourdissait ces campagnes peuplées de mauvais rêves, ce n'était pas la griffe appesantie d'un fléau, c'était plutôt un retrait souffreteux, une espèce de veuvage triste. L'homme avait commencé à assujettir ses étendues vagues, puis il s'était lassé d'y mordre, et maintenant même le goût de maintenir sa prise avait pourri. Il s'était fait partout un reflux, un repli chagrin. Les coupes dans les forêts, qu'on apercevait de loin en loin, avaient perdu leurs angles vifs, leurs entailles nettes. Maintenant, une broussaille hirsute y menait son sabbat dans le plein jour des clairières, cachant les troncs nus jusqu'aux premières branches. Les taches cultivées se résorbaient, à la manière d'un étang qu'on vide par le fond, abandonnant autour d'elle les anciennes clôtures sombrées dans l'herbe haute et tout un cerne ondulant de plantes sauvages, piquées de bouillons blancs et de coquelicots. Des petits groupes de chaumières basses qui avaient essaimé de loin en loin dans les friches, flanqués de leurs étables et de leurs greniers à foin, on n'apercevait plus que les toits, ou plutôt leurs solives délavées, encore barbues de chaume pourri. Déjà les battait jusqu'au chéneau la marée des plantes laineuses et ternes des décombres. Rien ne serrait le cœur dans les clos autrefois labourés, où les îlets de pommiers reposaient maintenant le bord même de leur couronne sur le bouillonnement des herbes folles, comme l'émeute servile de ces plantes lépreuses, poilues et griffues, couleur de poussière, qui vivent des déchets de l'homme et qu'il tient très au large de ses hautes enceintes sarclées. Elles menaient leur ronde maintenant, pleines d'escargots et de couleuvres, autour du puits, du four et du lavoir, soufflant au mur lézardé une fraîcheur malsaine de cave. Quelquefois, quand nous passions en vue d'une de ces épaves, déjà sombrée dans les remous de l'écume verte, une curiosité triste nous écartait un moment de la route, et, par les fenêtres arrachées, nous jetions un coup d'œil dans les pièces vides. Un grand jour blanc, sinistre, y tombait des toits crevés, faisant cligner comme un oiseau de nuit la caverne violée de la profonde maison paysanne, avec ses secrets pauvres et compliqués, le rencognement peureux de son alcôve, ses caches à provisions, avec le suin de ses murs fumeux, épaissement frottés de peau humaine, la longue coulée de suie froide de sa cheminée, et dans l'appentis carrelé de rouge, les peaux à lait ébréchées encore pendues à leur piton au-dessus de la baratte pourrie. Ce n'était plus, comme quand on traversait les campagnes du royaume, le sentiment du vieillissement sans remède qui nous assombrissait là. C'était, dans ces campagnes aux toits sourds et muets, sans un aboiement de chien, sans un cahotement matinal de charrette, un malaise physique à la fois diffus et violent, le sentiment d'être fourvoyé en rêve dans un pays qui se lève inexplicablement tard. Alors là, il y a une peinture de paysage qui est remplie d'un lyrisme et d'une atmosphère qui est presque fantastique, mais qui ne touche pas tout à fait au fantastique, qui, moi, m'a fait rêver hein, quand je l'ai découvert. Et j'aurais rêvé de pouvoir écrire des pages qui soient aussi évocatrices au niveau du vieux royaume. Il y a peut-être une page, par exemple, dans une demi-page, allez, dans Un amour dévorant, qui est proche de l'atmosphère de Grac. En tout cas, Grac fait partie des auteurs qui m'ont influencé. Alors voilà pour deux auteurs qui sont des peintres. Maintenant, il y a d'autres auteurs qui m'ont influencé. Pour ce qui est de Gagner la guerre, puisque dans Gagner la guerre, on a des personnages machiavéliques, et que d'entrée de jeu, je voulais écrire un roman qui soit l'illustration de la pensée de Machiavel, j'ai relu Le prince de Machiavel avant de me lancer dans le roman. Et il y a certains passages du prince qui sont illustrés dans Gagner la guerre. Alors, un petit exemple, il y a un chapitre affreux du prince de Machiavel. Pour resituer, donc, hein, Nicolas Machiavel est un diplomate florentin du début du XVIe siècle qui a travaillé pour la République de Florence juste avant que la République de Florence ne s'effondre et que la famille des Médicis ne s'empare du pouvoir, créant ce que les républicains appellent une tyrannie. Machiavel, républicain convaincu, va même être soupçonné d'avoir conspiré contre les Médicis. Il est arrêté, torturé. Il écrit deux sonnets, d'ailleurs, plein d'ironie depuis sa prison pour réclamer quand même sa libération auprès des Médicis. Et puis, par un concours de circonstances et un peu par chance, il est libéré. Il est écarté des affaires, mais son but, c'est de revenir aux affaires. Alors il retourne sa veste, et de républicain, il devient défenseur des tyrans, et il écrit ce livre, Le Prince, en l'adressant aux Médicis et en disant « Voilà ce que vous devez faire pour gouverner efficacement. » Alors, c'est le livre qui crée la notion de raison d'État. Monsieur Bellamomba m'arrêtera si jamais je dis des sottises. Hein. C'est dans ce livre que Machiavel expose très clairement que pour gouverner de façon efficacement, la fin justifie les moyens. Et donc, je vais vous lire un petit extrait que je trouve délicieux, mais moralement très discutable, du chapitre 18. Comment les princes doivent garder leur foi ? Machiavel nous dit que normalement, un prince, c'est-à-dire un chef d'État, doit faire montre d'un certain nombre de vertus. Ces vertus, c'est en particulier la foi, la charité, l'humanité, puis bien sûr le respect de la religion. Ensuite, il nous donne un exemple, l'exemple d'un pape, Alexandre VI. Et il nous montre comment ce Saint-Père a violé systématiquement toutes ses vertus. Et il nous dit que finalement, c'est très bien qu'il les ait violées, parce qu'ainsi, il a gouverné efficacement. Donc, voilà pour ce qui est du chapitre et le petit passage. À un prince, donc, il n'est pas nécessaire d'avoir en fait toutes les susdites qualités. Mais il est bien nécessaire de paraître les avoir. Et même, j'oserais dire ceci, que si on les a, et qu'on les observe toujours, elles sont dommageables. Et que si l'on paraît les avoir, elles sont utiles. Comme de paraître pitoyable, fidèle, humain, droit, religieux, et de l'être, mais d'avoir l'esprit édifié de telle façon que, s'il ne faut point l'être, tu puisses et saches devenir le contraire. Et il faut comprendre ceci, c'est qu'un prince, et surtout un prince nouveau, ne peut observer toutes ces choses pour lesquelles les hommes sont tenus pour bons, étant souvent contraints, pour maintenir l'État, d'agir contre la foi, contre la charité, contre l'humanité, contre la religion. Aussi faut-il qu'il ait un esprit disposé à tourner selon que les vents de la fortune et les variations des choses le lui commandent. Et comme j'ai dit plus haut, ne pas s'écarter du bien s'il le peut, mais savoir entrer dans le mal s'il le faut. Alors, ce petit passage, il est intéressant parce que Machiavel ne nous dit pas seulement que le bon chef d'État doit être hypocrite. Il nous dit, certes, le paraître est important, mais il n'y a pas que ça. Il nous dit, le bon chef d'État, il doit avoir une autre qualité, entre guillemets. Il nous dit qu'il faut qu'il ait un esprit disposé à tourner selon que les vents de la fortune et les variations des choses le lui commandent, et ne pas s'écarter du bien s'il le peut, mais savoir entrer dans le mal s'il le faut. Il nous dit aussi qu'il faut avoir l'esprit édifié de telle façon que s'il ne faut point l'être, c'est-à-dire point être vertueux, tu saches devenir le contraire. En fait, il nous dit que pour gouverner, il faut de la duplicité. Et la duplicité n'est pas tout à fait l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le fait simplement de mentir. C'est le fait d'être une parfaite ordure, mais de dire « non, moi je suis vertueux ». Faire preuve de duplicité, c'est être vertueux quand on le peut, être criminel quand il le faut, et être les deux à la fois. Alors, ce principe-là, c'est celui que j'ai suivi pour construire le podestat Léonide Ducatore. C'est un être qui illustre la duplicité. Et c'est la raison pour laquelle il est aussi charmant et aussi horrible. Il a les vertus qu'il n'hésite pas à violer quand il le faut. Alors, un petit exemple, qui n'aura malheureusement pas la qualité littéraire des textes que j'ai lus auparavant, mais qui est l'illustration justement de la duplicité du podestat Ducatore. C'est au cours d'une petite conversation. Alors, je vends un peu la mèche pour les gens qui n'auraient pas lu le livre. C'est au cours d'une petite conversation entre Benvenuto, le narrateur, qui est l'exécutant au service du podestat Ducatore, et le podestat lui-même, après que Benvenuto ait assassiné, sur contrat du podestat, un des rivaux politiques du podestat. A-t-il dit quelque chose en mourant ? Demanda doucement le podestat. Je ne lui ai pas laissé le temps d'être bavard. Et a-t-il compris ? Oui, ça oui. J'ai encore son putain de regard vissé au fond du crâne. Mon patron secoua la tête avec tristesse. Quel gâchis, Benvenuto. Un homme si vaillant, si brillant. J'espère qu'il a pu aller au fond des choses avant de s'éteindre. Réaliser que je ne le tuais pas par haine, mais par admiration. J'espère qu'il a pu saisir que cette mort, malgré toute son ignominie, restait une forme d'hommage. Je conservais un silence prudent. J'étais payé pour aplanir les obstacles matériels par les problèmes moraux. C'était un nouvel astre dans le ciel de Ciudadela, poursuivait mon patron sur un ton songeur, un astre en pleine ascension. Mais je ne pouvais lui permettre d'atteindre son zénith, deux soleils au firmament. La République s'en serait trouvée brûlée. Ce meurtre, finalement, je l'ai aussi décidé pour le bien de l'État. Et, en me lançant un regard perçant, il ajouta « Garde ton mauvais esprit, Benvenuto. Pour garantir mes revenus et les tiens, il faut bien écarter les gêneurs. » Là, vous avez un personnage qui fait preuve de duplicité. Il regrette ce meurtre. Il admire sa victime. Mais il fallait, pour le bien de l'État et pour son propre bien à lui, qu'il associe, mais ça c'est de la pensée de Machiavel, le bien de l'État, le bien du prince, c'est la même chose. Il fallait liquider ce gêneur, si admirable fut-il. Donc ça c'est l'influence machiavélique qu'on peut trouver dans Gagner la guerre. Alors une dernière influence quand même, une influence majeure, une partie de Gagner la guerre, une petite partie est écrite en argot, et puis de façon régulière, le narrateur emploie des termes d'argot, parce que c'est intrus. Il va sans dire qu'il y a une origine littéraire à cette langue absolument grossière que semble employer Benvenuto. Il appelle lui-même cet argot le jarre ou le jobelin. Ce sont des termes qui appartiennent en fait au moyen français. C'est le jargon ou c'est l'argot des voleurs. Nous avons un très grand auteur de langue française qui a écrit des ballades en jargon ou en jobelin. C'est François Villon. Alors, je vais vous lire donc un petit extrait, puis ensuite je vais l'expliquer quand même parce que c'est du jobelin. Un petit extrait d'une ballade en jobelin, c'est-à-dire dans l'argot des coquillards, sachant que l'argot était conçu à l'époque pour rendre la langue des truands incompréhensible aux gaffres, c'est-à-dire les sergents. Un petit extrait d'une ballade en jobelin qui m'a inspiré. J'ai repris certains termes d'ailleurs qui sont présents ici, qui m'a inspiré pour l'argot employé par mes propres truands. En parouar, la grande mat gaudit, ou a collé son cou et a garci, noces ce sont, ces belles mélodies. Là son bai-fleur au plus haut bout assis, et vendangeur des anses circoncis, comme servi sur ce jonc gracieux, danse plaisant et mets délicieux. Car coquillard ni romain grand espace, que veuille ou non, ne soit fait des cieux, mais le pis et mariage m'en passe. Je suppose que vous avez tout compris. Alors certes, la langue est ancienne, mais en plus, de toute manière, elle était conçue pour être incompréhensible même par les contemporains de Villon, puisque c'est la langue des truands. Alors si je traduis rapidement ce que nous raconte Villon, il nous parle de mariage. Je pense que vous avez entendu le mot noce, le mot mariage. Alors attention, le mariage dans l'argot n'a rien à voir avec le mariage tel que nous le connaissons. Le marieur, c'est le bourreau, la veuve, c'est la potence, se marier, c'est être pendu. Et donc, il joue dans son poème sur tout l'imaginaire du banquet de mariage, mais un banquet de mariage, en fait, qui correspond à la pendaison sur le gibet de Montfaucon. Il ne faut pas oublier que Villon, c'est aussi l'auteur de La Ballade des pendus, mais qui est écrite en français et pas en argot. Et il revient sur cette obsession de la pendaison, pour une raison simple, c'est que François Villon, c'est un voleur, il a quand même volé le trésor du Collège de Navarre, même si c'est un intellectuel, c'était un étudiant, c'est un assassin, il a tué un prêtre, un coup de dague, et par conséquent, on ne sait pas très bien comment il a terminé, mais probablement très mal de toute façon. En tout cas, il a lui-même été incarcéré à plusieurs reprises, et il sentait la menace de la harpe, de la corde. Alors, si je traduis rapidement, en paroir, c'est à Paris. La grande matte gaudit, la matte, c'est le bouge, l'auberge joyeuse où se retrouvent les truands, où s'amusent beaucoup, mais alors c'est vraiment le lieu mal famé. Alors gaudit, c'est l'ancien français, c'est joyeuse. Où accoler son co et agarci. Alors, où accoler, c'est-à-dire où sont associés, où se trouvent côte à côte, les co, les cuits, par quoi? Par le soleil. Mais ça renvoie aussi au banquet. Et les agarci, et les dévorés, par qui? Par les corbeaux. Qui commence à nous parler déjà des pendus. Noces, ce sont ces belles mélodies. Là, je pense que c'est compréhensible. Là. Mais ces noces dont il parle, c'est bel et bien le mariage avec le gibet. Là, sont béfleurs. Les béfleurs sont les tricheurs professionnels. Au plus haut bout, assis. Alors, assis au haut bout, c'est assis à la place d'honneur sur une table de banquet. Assis au haut bout, un gibet, ça veut dire qu'ils sont pendus le plus haut. Et vendangeurs, les vendangeurs sont tout simplement les voleurs à la tire. Des anses circoncis, aux oreilles coupées, parce qu'avant d'être pendus, on les a marqués. Comme servi sur ce jonc gracieux. Alors l'avion s'amuse beaucoup, même si ce n'est pas très compréhensible. Le jonc, c'est toujours la potence, mais le jonc, dès l'époque, comme de nos jours, ça désigne l'or. Et en particulier, c'est ce que cherchent les bijoux, l'or, ce que cherche, c'est le butin. Danse plaisante, donc plaisante danse, des pendus, et mets délicieux, mais repas délicieux pour les corbeaux. Car coquillards, alors les coquillards étaient donc les truands de l'époque, ceux qui se faisaient passer pour des pèlerins, qui portaient la coquille de Saint-Jacques de Compostelle, ni Romain le grand espace ne reste pas longtemps, qu'il veuille ou non ne soit fait des cieux, qu'il veuille ou non, il se retrouve pris. Mais le pis est mariage, mais le pire c'est le mariage. M'en passe, je m'en passe. Puisque le mariage, c'est la potence. Alors, on a ici un exemple historique de Jobelin, et c'est ce que j'ai voulu imiter dans Gagner la guerre, avec mes truands qui parlent un argot qui est reconstitué, qui n'est pas tout à fait le Jobelin de Villon, mais qui est un argot reconstitué. Je vous en donne une lecture d'un petit aperçu. On a un débriefing entre deux truands. Donc, le narrateur, toujours, Benvenuto, puisqu'il appartient à une guilde crapuleuse et qu'il loue ses services au Podesta dont on a parlé, et puis son contact, le maître assassin Rosso Daccarella. Donc c'est Daccarella qui s'adresse à lui. Le conseil moite est déjà rencardé sur vos deux poupards, me dit-il. Il a été emplâtré par le grand khan dès qu'il a renquillé, tout semble régulier. En fait, maintenant que vous avez rallégé, les grands couers veulent juste connobler plus précisément les deux marmots que vous avez nourris sur le grand pré. Je vous enterve. La première flanche était un envoi, répondis-je à mi-voix. J'ai dû dévisser un rupin qui, vous savez, le daron du sabot où on m'avait encarré. Je l'ai chouriné en pleine foigne. La calanche, c'était bucéphale. Même en joblin, j'aime pas en jaboté, mais on va dire ligodu. Et l'autre enfant? Ah ça, c'était un cri sec. Après le coup de torchon sur le cap Skibilos, le grand khan a essayé de rambiner avec le dabuche de Récine. Il s'est dit qu'il y avait du trèfle à se faire sur le décarpillage. Alors il a cherché à combuter avec les troncs de figuier. Il m'a encarré pour faire le baladeur avec les vrais du dab. Alors je traduis. Le conseil muet qui est en fait l'instance qui dirige la guilde truand à laquelle ils appartiennent tous les deux, est déjà au courant sur les deux coups que vous avez faits, me dit-il. Il a été renseigné par le chef, le grand khan, c'est le chef, c'est-à-dire ici le patron de Benvenuto, le podestat de Catoré. Dès qu'il est rentré, tout semble dans l'ordre. En fait, maintenant que vous êtes rentré, les patrons veulent juste savoir plus précisément quelles sont les modalités des coups que vous avez faits en mer. Je vous écoute. Donc, le premier coup, c'était un assassinat, répondit Jamivoie. J'ai dû tuer un noble, qui vous savez, le capitaine du navire où on m'avait embarqué. Je l'ai suriné, je l'ai donc poinçonné, hein, tué au couteau en pleine bataille. La victime, c'était Bucéphale. Donc, même en argot, j'aime pas en parler, mais on va dire que oui. Et l'autre coup, ça, c'était une escroquerie. Après la bataille sur le cap Skibilos, le patron a essayé de se... même le mot m'échappe. Le mot en français m'échappe. Il a essayé simplement de retrouver, de se rabibocher, disons, avec le roi de Racine, avec le chat de Racine. Il s'est dit qu'il y avait de l'argent à se faire sur le butin. Alors, il a cherché à faire un marché avec les Arabes, ici. Hein. Il m'a envoyé pour faire le négociateur avec les hommes sûrs du roi. Donc, alors, à propos de la langue de Benvenuto, on m'a dit, oui, il y a plusieurs lecteurs qui m'ont fait cette remarque. C'est un truand, c'est un assassin, il parle argot, et en même temps, il est capable d'écrire des choses extrêmement lyriques, voire un peu poétiques. Et on m'a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Autant j'accepte volontiers d'autres critiques sur un certain nombre d'erreurs, de coquilles, voire de problèmes qui peuvent être présents dans ce bouquin, autant je reste attaché à l'idée qu'un homme comme Benvenuto, qu'un truand comme Benvenuto qui parle argot, qui est un assassin et un filou, puisse quand même se montrer lyrique et poétique, puisque Villon, par ailleurs, écrit lui aussi des choses extrêmement belles. Je vous cite simplement la première strophe d'une ballade qui a été extrêmement célèbre pendant des siècles. Ballade des dames du temps jadis, dites-moi où, en quel pays, effleura la belle romaine, Archipiade Nitaïs, qui fut sa cousine germaine. Écho, parlant qu'en bruit on mène, dessus rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan ? Et le « mais où sont les neiges d'antan » est resté dans la culture française pendant des siècles. Donc, vous avez ici la démonstration historique qu'un truand, voleur, assassin, et parlant l'argot, peut aussi être un très grand poète, un poète lyrique. Donc j'avais ces deux idées en tête, hein, en prêtant sa langue à Benvenuto. Voilà pour un petit parcours rapide de sources d'inspiration. Maintenant, oui, j'étais rapide. Si vous voulez me solliciter, me conspuer, me critiquer, je suis à votre disposition. C'est davantage le Giono lyrique chez moi qui me marque. Oui. Je sais effectivement que Giono admire Stendhal. D'ailleurs, ce qui est marquant, c'est que Gracq aussi, hein, admire énormément Stendhal. Mais c'est davantage le lyrique que moi, j'apprécie. Oui, forcément. Oui. Alors là, je crains la colle. Là.
Non, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis sur la différence entre duplicité et hypocrisie. Je pense que tu l'as très bien dit. Et tu l'as très bien fait ressentir quand on a gagné la guerre. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas, alors un peu chez Machiavel et puis un peu peut-être dans Gagner la guerre, comme un désir de vengeance, c'est-à-dire que cette duplicité-là induit derrière un poids à supporter qui est très difficile à porter.
Oui.
Est-ce que quelque part Machiavel peut-être n'avait pas aussi cette idée-là? C'est-à-dire, suivez les conseils que je vous donne, mais derrière, attention, le prix à payer. Est-ce que Léonie Boccaccio, justement, n'est pas confronté à ce poids?
Oui. Alors. Bon, la réponse est dans la question. Je suis d'accord avec toi. Je pense effectivement que Machiavel est resté jusqu'au bout fidèle à son idéal républicain et que ça lui a fait très mal de se mettre à travailler pour les gens qu'il avait torturés et qui avaient renversé l'État pour lequel il avait lutté. Là, oui, et puis il y a sans doute une grande amertume chez Machiavel, même si c'est un auteur drôle, hein, par ailleurs. Hein. Bon, j'ai pas tout lu de lui, mais bon, sa poésie est drôle, son théâtre est drôle. Il paraît que c'était quelqu'un qui avait un humour assez leste. Chez Léonide de Catoré, oui, il y a des revanches à prendre. Alors, ça apparaît en pointillé. Il a un père qui était terrible. Dans la famille de Catoré, il y a une maladie. Cette maladie, elle apparaît dans le fils aîné, qui semble que Benvenuto présente comme un faible d'esprit, un débile. Benvenuto précise d'ailleurs que le père, le podesta, recommande que son fils mange peu de viande. Et là, c'est un indice pour identifier, en fait, c'est un trouble, ce qu'on appelle la phénylcétonurie. Un trouble qui provoque des désordres psychiques, qui est provoqué en particulier par l'afflux des protéines, et c'est un trouble qui peut être transmis de façon héréditaire. Or, on est dans un milieu endogamique, c'est-à-dire qu'on est au sein de familles aristocratiques où on se marie dans les mêmes familles pour conserver le pouvoir, et du coup, ce trouble qui est présent chez le fils aîné du podestas, qui lui pose un problème d'ailleurs, qui a un problème de succession, parce que qu'est-ce qu'il va faire du pouvoir qu'il a accumulé, dans la mesure où il a un fils qu'il estime fou, et puis il y a un autre qu'il a du mal à regagner à sa cause. Et en fait, cette maladie était déjà présente chez le père, et oui, le podesta, il est entre autres motivé par un appétit de reconnaissance, parce que pour lui, sa famille a été frappée, et surtout humiliée, par la folie qui a frappé son père et qui frappe un de ses fils. Donc oui, il y a sans doute un désir de vengeance, de revanche. Et puis l'autre désir de vengeance, il est lié à la nouvelle mauvaise donne. Le podesta a été exilé après ce qui était une victoire, selon un schéma qu'on retrouve assez souvent dans les États démocratiques. Hein. On écarte celui qui est trop gênant, qui est trop gênant parce qu'il est trop populaire, parce qu'il est trop efficace. Et oui, il y a sans doute ces deux motifs qui confortent, disons, le podestat dans son désir de revanche. Maintenant, je dois dire que même pour moi, le podestat est un personnage un peu mystérieux, parce qu'il est tellement mauvais. C'est le mal à l'état pur, en ce sens que il n'en a absolument pas l'apparence, mais dans la mesure où il s'est libéré de toute morale, tout en acceptant le bien fondé de la morale quand elle lui est utile, c'est un personnage qui est tellement effrayant que je ne pense pas qu'on puisse expliquer complètement qui il est. Et puis bon, je sais d'autres choses que je ne divulgue pas encore, en particulier sur son association avec son astrologue. Bien sûr, hein, ils ont un plan à tiroir, hein, ils ont d'autres choses en tête. Conquérir le pouvoir à Ciudadela, c'est bien, c'est une chose, mais alors, je ne l'ai peut-être pas trop mis en avant, mais le personnage du podestat est conscient d'une chose, c'est qu'il le sous-entend à un moment donné. Rien n'est stable, et donc il faut qu'il court en avant pour conserver son pouvoir et accroître son pouvoir. Et donc, c'est la raison du voyage mystérieux de l'astrologue. Hein. Ils sont en pleine course en avant. Et en fait, Benvenuto lui aussi est dans une course en avant, parce que les crimes qu'il commet l'amènent à plonger dans un bain de sang, mais en ce sens, il n'est vraiment que le suiveur de son patron. Alors là, je me suis un peu écarté de ta remarque. Mais oui, dans la duplicité, oui, il y a sans doute ici l'indice d'une soif de revanche. Pas forcément de vengeance, mais de revanche.
Vous n'avez pas eu la réponse à cette question: quel auteur a-t-il découvert
Ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. C'est vrai, je ne l'ai pas dit. Grac, donc, après avoir écrit donc, La Route, dont je vous ai lu un extrait tout à l'heure, a abandonné ce roman. Ça l'a amené quand même à écrire un roman qui est un roman très célèbre, qui est un balcon en forêt, qui a été un très grand succès de librairie dans les années 50-60, mais qui se passait dans les Ardennes en 1940. Et puis, je crois que c'est à la fin des années 70, Julien Gracq, donc amateur de Stendhal, amateur de littérature du 19e siècle, amateur de surréalisme aussi, hein, il était proche de Breton. Enfin bon, un auteur qui a priori ne lisait pas de fantasy, il découvre Le Seigneur des Anneaux et il est frappé par Le Seigneur des Anneaux. Pour Gracq, Le Seigneur des Anneaux est un grand roman. Et sans doute parce qu'il a compris que Tolkien avait été là où lui n'a pas été. Parce qu'il y avait une différence de culture. La fantasy, c'est quand même un courant né en Angleterre, alors que Gracq, lui, a une culture complètement française et académique et raisonnable et rationnelle. Et donc, et ce qui est frappant aussi quand même, c'est que quand Gracq se met à ce roman qu'il n'achèvera pas, il s'y met dans les années 50, au moment où Tolkien termine Le Seigneur des Anneaux. Le Rivage des Sirtes, il est écrit, alors que Gracq pressant un peu la fantaisie, il est écrit lui aussi au début des années 50. Donc rigoureusement, même moment. Ce sont deux hommes de la même génération, mais qui n'ont pas la même culture, parce qu'ils ne sont pas issus du même système de formation. Et il y en a un qui va jusqu'au bout de la fantaisie, pas l'autre. Alors qu'à la fin de sa vie, Gracq a dit qu'il n'y a plus d'auteurs contemporains avec lesquels il se sent vraiment en concurrence. Par contre, quand il lit Tolkien, il est vraiment frappé. Alors que Tolkien, a priori, même si chez Tolkien il y a un goût pour la nature, le voyage, etc., qu'on voit ici, Tolkien semble écrire quelque chose d'assez différent. Voilà, je vais vous libérer, surtout qu'on cuit ici. Merci pour votre attention.